Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. Après plus de 8 ans d'engagement massif, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier une réduction de la présence militaire française du Sahel, marquée par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Nous y reviendrons avec Eric Manirakidza et Abdulrahman Dia. Dans un contexte sécuritaire très dégradé, malgré le déploiement de milliers de militaires des armées nationales et étrangères, les massacres de civils se poursuivent au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Yacouba Ouédraogo nous en parlera. Une académie internationale de lutte contre le terrorisme a été inaugurée ce jeudi à Jacqueville, près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, afin d'aider au combat contre les djihadistes qui intensifient leurs actions sanglantes au Sahel voisin. Au moins une dizaine de terroristes ont été neutralisés, c'est-à-dire tués, et 3 soldats burkinabés blessés hier lors d'une embuscade tendue à une patrouille mixte dans la commune d'Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, a déclaré une source sécuritaire précisant que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. 3 policiers et un gendarme nigérien ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque de bandits armés contre une patrouille en plein désert près d'Assamaka à la frontière avec l'Algérie, a appris hier l'AFP auprès de sources locales. L'armée a engagé des poursuites contre les assaillants. ICG, International Crisis Group, recommande au gouvernement du Mozambique de combiner réponses militaires, aide aux populations désenchantées et dialogue avec les militants dans son combat contre les djihadistes qui terrorisent le nord du pays depuis plus de 3 ans. ICG, dans un rapport aujourd'hui, préconise à Maputo d'utiliser la force avec sagesse, en offrant aussi une porte de sortie à ces groupes, notamment l'amnistie. Les Algériens se rendent aux urnes demain samedi pour des élections législatives anticipées, censées apporter une nouvelle légitimité au régime, mais rejetées par le mouvement contestataire du Hirak et une partie de l'opposition sur fond de répression généralisée, rapporte l'AFP, qui parle d'arrestations, dont celle du journaliste indépendant Khaled Rareni, dont le site d'information était sans nouvelles, l'opposant Karim Tabou et le directeur d'une station de radio proche du mouvement pro-démocratie, Hissan El-Kadi. Les États-Unis et l'Union européenne ont lancé hier un appel pressant à l'action pour lutter contre un début de famine provoqué par le conflit dans le Tigré éthiopien, à la veille du sommet des dirigeants du G7 au Royaume-Uni. L'Afrique du Sud, qui n'a vacciné qu'un peu plus d'1% de sa population contre les 10% recommandés par l'OMS pour chaque pays d'ici septembre, est techniquement entrée dans une 3e vague de COVID-19 avec plus de 9000 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures. Selon l'Institut national des maladies transmissibles, le président Cyril Ramaphosa, on le sait, a plusieurs fois dénoncé un apartheid vaccinal favorisant les pays riches pour l'accès aux vaccins. Seulement 2% des Africains ont reçu une dose et seuls 9,4 millions sont entièrement vaccinés, selon l'OMS. Les dirigeants du G7, qui se réunissent donc à partir de ce vendredi en Angleterre, vont s'engager à distribuer 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid aux pays pauvres dans l'espoir d'éradiquer la pandémie. Londres fera un don de 100 millions de doses excédentaires et le président américain Joe Biden a annoncé que Washington fournira 500 millions de vaccins qui sont comptés dans le milliard de doses du G7. Nous y reviendrons avec Michel Joseph. Un incendie dans une station électrique de l'île américaine de Porto Rico a plongé des milliers d'habitants dans le noir hier soir, peu après que le fournisseur d'électricité a annoncé avoir subi une cyberattaque sans faire de lien avec le sinistre. La suite de nos informations. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier la transformation prochaine de l'opération Barkhane. Il a aussi demandé des engagements clairs au nouveau gouvernement malien. Les détails avec Eric Manirakidza.
Le temps est venu, a lancé Emmanuel Macron. La France va amorcer une transformation profonde de sa présence militaire au Sahel. Cette transformation passera par la fermeture de bases de l'armée française. La fin de Barkhane ne signifie pas le désengagement de la France dans la lutte antiterroriste au Sahel. L'accent sera mis sur des forces spéciales structurées autour de l'opération Takuba, une alliance internationale associant les États de la région. Monsieur Macron n'a cependant pas donné de date ni détaillé les réductions d'effectifs, expliquant qu'il communiquera de nouveau sur le sujet à la fin du mois. La France a annoncé le gel de ses opérations militaires conjointes après le second putsch au Mali. Monsieur Macron a posé une condition à la reprise de ses opérations, à savoir l'engagement clair des autorités de transition à ne pas dialoguer avec les djihadistes. 8 ans après l'arrivée de la France au Mali, le constat du président français est plutôt amer. Selon lui, il est impossible de se substituer au retour de l'État et des services de l'État à la stabilité politique et au choix des États souverains.
Malgré le déploiement de milliers de soldats d'armées nationales et étrangères, les massacres de civils se sont poursuivis dans plusieurs pays du Sahel. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le nord du Burkina Faso a été le théâtre début juillet d'un nouveau massacre. 132 à 160 personnes ont été tuées en une seule nuit dans le village de Solan. En janvier, 105 civils ont été massacrés dans 2 villages de l'ouest du Niger. En mars 2019, 160 civils tués à Ogossagou au Mali. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, 14 personnes ont été tuées dans l'attaque la plus meurtrière en juin 2020. Ces attaques sont souvent attribuées à des groupes affiliés à Al-Qaïda ou aux groupes État islamique, aux armées nationales et aux milices d'autodéfense. Le Burkina Faso a créé les volontaires pour la défense de la patrie. Les anciennes milices Kogolwe-Wogo deviennent des supplétifs des forces armées. Dans le centre du Mali, la milice Dan Ambassagou, officiellement dissoute, occupe l'espace déserté par l'État. 2 des 5 États du G5 Sahel ont connu un changement de pouvoir. Le Tchad avec la mort du maréchal Idriss Déby Itno et le Mali avec un second coup d'État en 9 mois. La France met fin à son opération Barkhane et pose comme condition à son retour militaire qu'il n'y ait aucune négociation avec les djihadistes.
Le président américain Joe Biden a estimé hier que le don par les États-Unis de 500 millions de vaccins anti-Covid aux pays les plus pauvres est une étape historique dans la lutte contre la pandémie. Michel Joseph fait le point.
Notre devoir humanitaire est de sauver autant de vies que possible, a déclaré Joe Biden à la veille de l'ouverture du sommet du G7 en Cornouailles, au Royaume-Uni, ajoutant que c'est aussi dans l'intérêt des Américains. La Maison-Blanche a annoncé l'achat de 500 millions de doses de vaccins de Pfizer-BioNTech qui seront distribuées à près de 100 pays à travers le dispositif COVAX. Ces dons s'ajoutent aux 80 millions de doses que Washington a promis d'ici fin juin. 200 millions de doses seront distribuées d'ici la fin de l'année et 300 millions au premier semestre l'année prochaine. Les États-Unis fourniront ce demi-milliard de doses sans aucune condition, d'après Joe Biden, dans une allusion à peine voilée à la Russie et la Chine. Washington les accuse de se servir du vaccin comme moyen de pression diplomatique. Critiqué pour avoir tardé à partager ses vaccins contre le Covid-19 avec le reste du monde, la Maison-Blanche tente de se poser aujourd'hui en leader dans la lutte contre la pandémie qui a fait plus de 3,76 millions de morts dans le monde.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Dans son rapport semestriel, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévoit une hausse de 12% de la facture des importations alimentaires mondiales en 2021 à 1 720 milliards de dollars contre 1 530 milliards l'an dernier. Ces dépenses supplémentaires pourraient masquer une évolution défavorable des régimes alimentaires sur les plans quantitatifs et qualitatifs dans les pays vulnérables, note la FAO. Les dirigeants des pays du G7 vont s'engager lors de leur sommet à distribuer 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid aux pays en développement pour mettre fin à la pandémie en 2022, a annoncé le gouvernement britannique qui assure la présidence du groupe. Londres donne 100 millions de doses et les États-Unis 500 millions via le dispositif COVAX. Des laboratoires se sont engagés à fournir à prix coûtant 3,5 milliards de doses aux pays les moins nantis. L'Afrique du Sud souhaite ouvrir davantage le secteur de l'électricité aux entreprises privées. La compagnie publique Eskom, en difficulté financière, produit plus de 90% de l'électricité du pays. Mercredi, elle a annoncé de nouvelles coupures. Les entreprises privées pourront désormais produire 100 mégawatts au lieu de 10. Une pénurie d'énergie représente un énorme risque pour l'économie, a reconnu le président Cyril Ramaphosa, saluant cette réforme.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'Euro débute ce vendredi à Rome dans un stadio olympico rouvert au public. Pour la première fois depuis l'an dernier, l'Italie lance cette Coupe d'Europe de football face à la Turquie. Après avoir raté la Coupe du Monde en 2018, une première depuis 60 ans, l'Italie a retrouvé du jeu et de la confiance sous les ordres de Roberto Mancini. Les qualifications sans fausse note pour l'Euro, 10 victoires en 10 matchs, puis pour le prochain Final Four de la Ligue des Nations en octobre, ont chassé les fantômes. 24 pays s'affronteront jusqu'au 11 juillet pour la succession du Portugal, vainqueur en 2016 en France. Sanction réduite pour André Onana, gardien de l'Ajax Amsterdam. Le tribunal arbitral du sport a réduit de 12 à 9 mois la suspension infligée à l'international camerounais pour infraction aux règles antidopage, statuant en appel de la décision disciplinaire de l'UEFA. La juridiction sportive a jugé cette sanction mieux proportionnée au manquement du portier puisqu'aucune faute significative ne peut lui être reprochée, explique le TASS. Des traces de produits dopants ont été retrouvées dans les urines du joueur de 25 ans le 30 octobre dernier lors d'un contrôle inopiné. Mais l'Ajax a affirmé qu'André Onana s'était senti mal et avait pris un médicament initialement destiné à son épouse. La sanction contre l'international camerounais qui court depuis le 4 février doit désormais s'achever le 3 novembre prochain, précise le TASS. Ici aux États-Unis, les équipes masculines et féminines américaines investiront Las Vegas début juillet pour y effectuer des camps d'entraînement et jouer une série de matchs amicaux préparatoires aux Jeux olympiques de Tokyo. C'est ce qu'a annoncé la Fédération américaine de basketball. L'équipe masculine qui tentera de remporter une 4e médaille d'or consécutive à Tokyo débutera sa préparation le 6 juillet et disputera 5 rencontres avant de se rendre au Japon. L'équipe des Grecs Popovich affrontera le Nigeria le 10 juillet, puis l'Australie le 12 avant de rencontrer l'Argentine le 13. Un autre match contre l'Australie aura lieu le 16, puis un dernier contre l'Espagne le 18. Les Américaines, qui tenteront, elles, de décrocher un 7e titre olympique consécutif, affronteront l'Australie le 16 juillet, puis le Nigeria le 18. Plusieurs autres sélections étrangères feront également leur préparation dans la ville du Nevada et joueront entre elles. USA Basketball a déclaré que des protocoles sanitaires seront mis en place, notamment des tests du COVID-19 réguliers pour les joueurs, les entraîneurs, les officiels et les personnels d'encadrement.
Merci Yacouba. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur cette annonce du président français Emmanuel Macron faisant état de la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure et la mise en œuvre d'une alliance internationale associant les États de la région. Qu'est-ce qui va changer dans la présence militaire française dans le Sahel et pour les pays de la région? Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Bamako Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute.
C'est dans la logique d'Emmanuel Macron qui voulait éviter à tout prix que la question de la présence militaire française au Sahel soit au cœur de la campagne présidentielle en France, qui est déjà bien ouverte. En plus, il avait l'intention d'annoncer le début de la fin de Barkhane. Entre-temps, Idriss Déby est mort et il fallait réajuster certaines décisions. Maintenant, avec ce qui se passe au Mali, il y a eu quand même une montée en puissance d'une contestation de cette présence, en tout cas, ou en tout cas d'approbation des nouvelles autorités maliennes qui, à mon avis, aux yeux de Paris, n'ont pas été assez sanctionnés par la CEDEAO et par l'Union africaine et la communauté internationale. De ce point de vue, la France veut éviter d'être dans le paradoxe d'une présence militaire française dans un pays pour combattre les terroristes avec lesquels des pays comme le Mali vont inévitablement négocier.
Et justement, il ne veut pas parler, et il ne veut pas entendre parler de négociations avec les djihadistes. Ça vous semble raisonnable ?
Ici au Mali, la question s'est posée suite à la fin des sessions de dialogue national inclusif. Dans les recommandations de ce dialogue, les Maliens, toutes les parties prenantes au Mali, ont convenu d'un dialogue nécessaire avec les groupes terroristes maliens, c'est-à-dire Iyad Ali et Ahmadou Koufar, en disant que le Mali n'a pas les moyens, sur le long terme, sur le plan militaire, de combattre éternellement les djihadistes avec les moyens militaires, d'autant plus que certains pays comme les États-Unis n'ont pas pu tenir, même en Afghanistan, il a fallu parler aux talibans. Mais dans la logique française, il n'était pas question de dialoguer. Donc c'est quelque chose qui est un point d'achoppement dans l'appréciation de la situation sécuritaire ici, et je pense que ce n'est pas seulement lié aux nouvelles autorités arrivées par le biais de ce putsch-là, mais je pense que c'est un sentiment largement partagé dans la rue malienne.
Alors, le président Macron parle d'une alliance internationale associant les États de la région du Sahel. Est-ce que ce n'est pas un peu le schéma qu'on a en ce moment ? Qu'est-ce qui va vraiment changer ?
Partons donc vers un élargissement de fait du G5 Sahel en incluant les pays côtiers. Si l'on sait le souhait de certains pays à y participer, aujourd'hui, il y a l'inauguration de l'Académie internationale du terrorisme à Abidjan. Il y a eu pas mal de choses qui se passent, des rendez-vous sécuritaires comme le Forum de Dakar. Et aujourd'hui, tout le monde parle de cette avancée fulgurante des groupes qui de plus en plus s'éloignent de l'épicentre sahélien du djihad pour aller vers les pays côtiers. Je pense qu'on va vers une nouvelle configuration qui se dessine aujourd'hui. Mais cette déclaration n'est pas à prendre comme un désengagement définitif de la France par rapport au Sahel. Je ne le crois pas. On va vers un nouveau schéma, pas vraiment vers un nouveau paradigme, mais quelque chose s'est passé pour que véritablement la position française évolue vers cette décision annoncée aujourd'hui par le président Macron.
C'était Bakary Samb, joint dans la capitale malienne.
Dans À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique ce vendredi, les armées africaines peuvent-elles faire face seules aux groupes terroristes ? Après la pire attaque au Burkina, dans le village de Solane, le président français annonce la fin de Barkhane et évoque une alliance associant les États de la région pour lutter contre le terrorisme. Faut-il élargir l'alliance anti-djihadiste en incluant des pays côtiers ? Pour ce faire, quel type de coopération militaire faudrait-il avec la France, les États-Unis ou encore la Russie ? Réagissez sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous à 18h05 temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Suite à l'annonce de la réduction du train de vie de la présidence malienne, l'Union nationale des travailleurs du Mali invite les autres institutions à en faire autant. Un Malien sur deux éprouve les plus grandes difficultés à joindre les deux bouts. Les réactions à Bamako avec notre correspondante Mariam Kouyaté.
Quand on regarde la situation du pays avec tout ce qui s'est passé cette dernière année jusqu'à maintenant, donc je pense que l'UNTM, ce qu'il demande, c'est salutaire aussi. Vu que la présidence a donné la voix, je pense que ça ne doit pas poser aux autres institutions, notamment à la primature qui est là, présider selon avec le nouveau pays. C'était même dans leur requête des 10 points qu'ils ont évoqués, c'est que l'État réduise ses dépenses. Je pense que la primature va suivre et j'espère que les autres institutions aussi feront de même.
Idi Sangaré, un agent administratif qui trouve légitime la demande de l'UNTM. Idrissa Doumbia, directeur d'une entreprise de la place, va dans le même sens.
Et si ça peut nous permettre de récupérer quelques manques à gagner, ça sera salutaire. Il faut mettre les principes seulement et réduire les charges inutiles. Si quelqu'un qui a deux ou trois voitures de service, déjà c'est énorme. Si on doit les réduire à une voiture, c'est bon. Et quelqu'un qui a moins de déplacements, qui a un bon de carburant de 400 000, on peut le réduire.
La demande de l'Union nationale des travailleurs du Mali de réduire le train de vie de l'État fait suite à la décision du président Assimi Goïta. Amadou Noba, secrétaire aux revendications de l'ULTM.
La décision du président de la transition, Assimi Goïta, de réduire le train de vie de l'État à son niveau, naturellement, il va de soi que ça, c'est des choses que nous saluons, parce que c'est des choses qui ont été décrites depuis tout le temps. On ne peut pas demander aux travailleurs de serrer la ceinture pendant que les autorités au plus haut niveau se permettaient tous les leaks incalculables. Donc ça, c'est un exemple. Et nous appelons les autres d'imiter cette décision concrète prise par Assimi Goïta et de réduire également les charges de l'État, chacun dans son département, au niveau de ses institutions.
Différentes dispositions reviennent aux autorités maliennes, selon Amadou Mba.
Ceux qui ont pris la décision de réduire les charges de l'État qui ont des dispositions à prendre. Nous, ce que nous allons faire, c'est d'observer dans l'ensemble ce qui est faisable en fonction des moyens de l'État. Et en fonction également de décisions par rapport à tout ce qui est en train de se faire déjà en termes de décisions écrites, si ces décisions sont appliquées, nous serons raisonnables de part et d'autre au moment venu.
Réduire le train de vie de l'État, le ton est donné par le président de la transition, Assimi Goïta. Lors de sa prestation de serment le 7 juin, il a promis d'allouer ses deux tiers du fonds de souveraineté, soit 1,8 milliard de francs CFA annuels aux œuvres socio-sanitaires pour favoriser l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaire. Mariam Kouyaté, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juin, un rapport révèle que 160 millions d'enfants dans le monde sont forcés de travailler, soit près d'un enfant sur 10 sont impliqués. De Genève, Lisa Schlein de la VOA fait le point. Le récit avec Rosine Mounezero.
Les données montrent que près de la moitié des enfants, soit 79 millions, font des travaux dangereux, soit 6,5 millions de plus qu'en 2016. Le travail dangereux est considéré comme l'une des pires formes de travail des enfants. Il est dangereux, nuisible à la santé physique et mentale de l'enfant et peuvent entraîner la mort. Selon l'OIT, 70% des enfants travaillent dans l'agriculture, la plupart dans des exploitations familiales, 20% dans les services, y compris le travail domestique, et 10% dans l'industrie. Le tableau varie selon les régions. Le travail des enfants diminue en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes. En revanche, selon ce rapport, il a considérablement augmenté en Afrique et en Afrique subsaharienne. Le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, déclare qu'en Afrique, 20 millions d'enfants travaillent aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 4 ans et 16,6 millions d'entre eux se trouvent en Afrique subsaharienne.
Donc, si vous regardez cela en termes de pourcentage, cela signifie que près d'un enfant africain sur 5 est forcé de travailler. 1 sur 4 dans la région subsaharienne. Ils sont privés d'éducation, ils travaillent à un jeune âge, beaucoup trop d'heures et souvent dans des métiers dangereux.
La directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore, s'inquiète de l'augmentation du nombre d'enfants forcés de travailler et la moitié sont âgés de 5 à 11 ans. Apparemment, la pandémie de COVID-19 ne fait qu'aggraver la situation.
Face aux pertes d'emploi et à la montée de la pauvreté, les familles sont contraintes de prendre des décisions douloureuses. Nous estimons que 9 millions d'enfants supplémentaires pourraient être poussés vers le travail d'ici la fin de l'année prochaine. Un nombre qui pourrait atteindre 46 millions si la protection sociale subit les mesures d'austérité des pays.
Pour renverser la tendance, l'OIT et l'UNICEF recommandent une protection sociale adéquate pour tous, y compris des allocations familiales universelles, une éducation de qualité et une augmentation des dépenses pour le retour des enfants à l'école. Mais au Mali, au Niger, au Burkina Faso, plusieurs milliers d'écoles sont fermées à cause des attaques des djihadistes qui déciment la région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, après la sortie du président Macky Sall sur les dérives dans les réseaux sociaux, le ministre de l'économie numérique a annoncé des mesures pour éradiquer ce que les autorités considèrent comme un fléau. De leur côté, les usagers, activistes et autres influenceurs craignent une atteinte aux libertés. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
La régulation des réseaux sociaux est devenue un enjeu majeur pour les autorités sénégalaises qui comptent faire des efforts pour assainir le milieu virtuel. Cependant, le ministre de l'économie numérique, Yankoba Diatara, estime qu'il faut une approche inclusive et participative.
La régulation du secteur des réseaux sociaux est une problématique mondiale. Le gouvernement du Sénégal, étant conscient des enjeux, mais également donc étant soucieux donc de la protection donc des citoyens, de leur dignité et de leur liberté, a entamé une réflexion pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur un cadre d'harmonisation donc et de régulation du secteur des réseaux sociaux. Il était de la responsabilité de l'État donc d'engager la réflexion, mais ce sera quelque chose de manière inclusive et participative.
Les acteurs du secteur sont aussi conscients des dérives sur le net et pour eux, l'approche annoncée par le ministre de l'économie numérique est primordiale pour réussir le pari de la régulation. Mohamed Siss, social media spécialiste.
Moi, le gouvernement devra comprendre que ce sont des espaces de liberté d'expression et ce sont des moyens qui permettent aux usagers, aux populations de pouvoir donner leur avis sur comment le pays est géré, comment les choses se passent. Donc, n'oublions pas que c'est un droit. Effectivement, les dérives qu'on voit sur Internet sont un fléau, mais tout compte fait pour pouvoir encadrer tout cela, il va falloir impliquer tous les acteurs, donner la possibilité aux personnes utilisateurs de ces plateformes-là de donner leur avis sur comment tout cela devra se faire. Les plateformes digitales ont déjà prévu un cadre légal pour encadrer tout cela, avec la mise en place de possibilités de signalement, etc. Mais aujourd'hui, on est à un niveau tel qu'il va falloir effectivement encadrer, mais encadrer tout en impliquant en fait les personnes ressources.
Les réseaux sociaux connaissent un engouement public, raison pour laquelle des mesures doivent être prises pour le bien de tous, selon Abbas, un usager qui pense que les acteurs médiatiques ont aussi un rôle à jouer.
Les réseaux sociaux, madame Fogonete, Sénégal, d'accord, il faut.
Je pense que les réseaux sociaux sont des outils utiles et pédagogiques, mais malheureusement, on voit le contraire au Sénégal. L'utilisation est mauvaise et les dérives excessives. Il faut des mesures fortes. Les acteurs médiatiques propriétaires de plateformes digitales doivent aussi censurer certains contenus.
La politique, les affaires de mœurs, les rivalités entre fans de célébrités, les médisances, les fake news sont autant de choses qui polluent la toile. Selon le ministre de l'économie numérique sénégalais, éradiquer toutes ces dérives passera d'abord par une phase de réflexion incluant les acteurs et tout ce qui gravite autour du digital. Le Sénégal va-t-il réussir le pari de l'exception numérique? Il suffira d'attendre pour voir l'issue de ce débat réel sur le monde virtuel. Les enjeux sont énormes parce que le Nigeria vient de suspendre Twitter après ce qu'Abuja considère comme un crime de lèse-majesté. Le géant des réseaux sociaux a osé supprimer un message du président Muhammadu Buhari. Facebook a de son côté suspendu pour 2 ans les messages de l'ancien président américain Donald Trump. Sedina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless Peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.